Et nous débutons avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La crise sanitaire semble s'éloigner peu à peu dans le pays. Le déconfinement pourrait s'accélérer aujourd'hui. Les enseignants dans les écoles primaires attendent notamment un assouplissement des règles sanitaires.
Car Emmanuel Macron réunit ce matin le conseil scientifique, puis un conseil de défense entre bilan et perspective, vous l'entendrez.
Les policiers sont toujours en colère contre le ministre de l'Intérieur. Les premières réunions d'hier n'y ont rien changé. Vous l'évoquez, Guillaume, dans la question du jour.
Eh bien oui, nous serons en compagnie de Sébastien Rocher, politologue, directeur de recherche au CNRS, avec comme question la police doit-elle se réformer?
Ce sera à 7h12 tout à l'heure. Avant cela, dans cette édition, nous évoquerons l'enquête qui reprend autour de Gérald Darmanin et d'une plainte pour viol. L'établissement français du don du sang, le seuil d'alerte est atteint. Et puis un nouveau dispositif de traçage à Singapour. Il ressemble à un tout petit jeton et il pose déjà question. Vers un assouplissement des règles sanitaires dans les écoles primaires. Le ministre de l'Éducation nationale y est favorable, le président du conseil scientifique également, particulièrement pour le sport, la récréation et la cantine. Ce matin, ce sera donc à Emmanuel Macron de trancher. Après le conseil scientifique, il réunira un conseil de défense. Le nombre d'élèves par classe pourrait également augmenter, mais attention, il ne faut pas s'attendre à une vraie reprise des cours. Voilà ce que dit Francette Popineau, secrétaire générale du SNUIPP, le syndicat des enseignants dans le premier degré.
L'importance n'est pas mise du côté des apprentissages, parce qu'on ne rattrapera pas en 15 jours ce qui a été manqué ce dernier trimestre. Donc la priorité, elle est mise sur l'économie. Pour que les parents puissent reprendre le travail, il faut qu'il y ait une garderie géante et gratuite, et c'est ce que peut constituer l'école. Donc on voit bien que là, ce n'est pas les apprentissages qui sont mis en avant. Il faudra aussi lever cette histoire de volontariat avec laquelle nous n'étions absolument pas d'accord. L'école, elle doit être obligatoire. C'est pas selon le bon désir des familles. C'est pas aux familles de prendre la responsabilité, en tout cas, de mettre leurs enfants. C'est bien l'école de la République telle qu'on la connaît, qui est égalitaire et qui donc ouvre ses portes à tout le monde de manière obligatoire pour que tout le monde y ait droit.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. Actuellement, je le précise, la moitié des élèves sont accueillis dans les écoles primaires. Un allègement pour les écoles donc, et un point sur la crise sanitaire. Voilà ce qui attend le président de la République ce matin avec, je le disais, un conseil scientifique puis un conseil de défense à partir de 10h puis 11h. Les nouvelles y seront sans doute rassurantes, Stéphane Robert.
Les deux réunions prévues ce matin devraient permettre de confirmer que les indicateurs sont bons et que le pays va pouvoir poursuivre et même accélérer son déconfinement. Et c'est ce que veut acter Emmanuel Macron lors de son allocution dimanche devant les Français. À 15 jours du second tour des municipales, il veut marquer le franchissement d'une étape supplémentaire. C'est pourquoi sa prise de parole sera l'occasion de dresser une sorte de bilan et perspective, indique l'Élysée. Il devrait revenir sur les décisions prises ces trois derniers mois et il n'éludera pas les questions qui fâchent, promettent ses conseillers, car il s'agit de donner du sens et de se projeter, d'entériner le fait qu'on est en train de sortir de la crise sanitaire et que va lui succéder une crise économique. Raison pour laquelle le chef de l'État devrait aussi largement évoquer les décisions qu'il a prises en la matière, les mesures d'urgence avec le financement du chômage partiel et les mesures d'accompagnement de la reprise d'activité. Il faut donner du sens aux milliards d'euros mobilisés, indique encore son entourage. En revanche, ce que ne fera pas Emmanuel Macron, c'est anticiper sur son discours prévu après les municipales début juillet, discours à travers lequel il doit fixer un nouveau cap pour les 2 ans qui lui restent à l'Élysée. Ce nouveau cap n'est pas encore complètement défini. Le président poursuit ses consultations. Il attend notamment la fin des travaux de la Convention citoyenne sur le climat. Il attend aussi les diagnostics qu'il a commandés au président des 3 grandes institutions que sont l'Assemblée, le Sénat et le Conseil économique et social. Le discours de dimanche devrait donc être un bilan d'étape et une sorte de préambule au plan de bataille que le général Macron a promis de dévoiler avant la mi-juillet.
Précision encore avant l'allocution de dimanche à 20h, la région Île-de-France pourrait passer en zone verte. Les bars, cafés et restaurants pourraient donc totalement rouvrir. Les policiers réclament toujours le rétablissement de la technique d'interpellation par étranglement. Face aux accusations de violences policières, Christophe Castaner a remis en cause cette technique, préférant la remplacer par le taser. Les syndicats de policiers font donc pression depuis hier lors d'une réunion au ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner pourrait revenir sur ses annonces. Notez qu'hier aussi, les policiers ont été quelques centaines à défiler et à poser menottes à terre à Lille, Marseille, Nice, Bordeaux ou Bobigny. Reportage justement déplacement à Bobigny, ce sera à 7h30 tout à l'heure. Mais d'ici là, revenons sur ce rebondissement judiciaire dans le cadre de la plainte pour viol qui vise Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. La Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des investigations autour de la plainte de Sophie Patterson, une plainte qui date de janvier 2018. Cette ancienne sympathisante de l'UMP accuse Gérald Darmanin de l'avoir violée en 2009. À l'époque, elle s'était adressée à l'élu pour tenter de faire annuler une condamnation qui la visait. Selon elle, Gérald Darmanin lui aurait fait miroiter son appui auprès de la chancellerie en échange de faveurs sexuelles. La juge n'avait pas instruit le dossier. C'est une erreur, estime aujourd'hui la cour d'appel. L'affaire est relancée, Florence Turm.
L'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris après la plainte de Sophie Patterson est d'abord classée sans suite. La plaignante dépose alors une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, ce qui entraîne automatiquement la désignation d'un juge d'instruction. Mais la magistrate en question estime qu'il n'y a pas lieu d'instruire le dossier. En août 2018, elle rend un non-lieu à informer, contesté à nouveau par la défense de Sophie Patterson, à qui la cour d'appel vient donc de donner satisfaction en dépit de l'avis contraire du parquet. Marjolaine Vignola, l'une des avocates de la plaignante.
Très concrètement, ça veut dire que le dossier va repartir de la chambre de l'instruction pour aller dans les couloirs du tribunal judiciaire de Paris, qui a un juge d'instruction 1 ou une juge d'instruction qui va être désignée pour mener les investigations dans le dossier et qui donc va ordonner, on l'espère, un certain nombre d'actes, entendre madame, entendre monsieur Darmanin, éventuellement le mettre en examen et une confrontation, pourquoi pas.
Confrontation qui n'a jamais eu lieu lors de l'enquête préliminaire. Gérard Darmanin, lui, a toujours nié l'accusation de viol dont il fait l'objet, tout en reconnaissant cette relation sexuelle, mais selon lui, avec une femme consentante.
Et notez que les avocats de Gérald Darmanin n'ont pas donné suite à nos sollicitations. L'établissement français du son en appelle à, du sang en appelle à la générosité des Français. Une campagne de 8 semaines est lancée pour renouveler les stocks qui commencent doucement à se reconstituer après le confinement, mais il faut aller vite car les réserves de produits sanguins sont en dessous du seuil d'alerte. Tara Schlegel.
Actuellement, il manque au moins 10 000 poches de sang pour faire face à la demande et plutôt 30 000 si on veut être serein. Il faut dire que les modes de collecte ont été bouleversés par l'épidémie de Covid et que cela continue, déplore le président de l'établissement français du sang, François Toujas.
Ça a été, et peut-être plus pendant le déconfinement d'ailleurs que pendant le confinement. L'annulation des collectes mobiles en entreprise, en université, une annulation de collecte qui, je le répète, pendant certains moments de l'année, notamment au printemps, représente environ 25% de notre offre de collecte.
Et puis dans les lieux où les dons peuvent se dérouler, il faut tout désinfecter et cela ralentit le rythme. Les bénévoles accueillent 5 donneurs par heure au lieu de 7. À quoi s'ajoute un été qui sera sans doute plus actif que d'habitude, car bien des opérations ont été reportées. On aura donc besoin de plus de produits sanguins qui de toute façon se périment et qu'on ne peut souvent remplacer par rien d'autre, rappelle François Toujas.
On parle toujours de la transfusion comme d'un élément qui arrive dans des cas d'urgence, d'accident, etc., etc. Ben non, 52%, non plus de la moitié des transfusions sont programmées. Et sont programmées pourquoi ? Ben sont programmées parce que dans 46% des cas, c'est de la prise en charge pour des malades qui ont des maladies du sang ou qui ont des cancers.
Avec un don de sang, on peut sauver 3 vies. C'est donc un acte de solidarité par excellence.
Et sachez que les dons par personne sont possibles toutes les 8 semaines. Ceux qui ont donné au début du confinement peuvent donc refaire un don.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Bagdad et Washington s'engagent pour le retrait des troupes américaines d'Irak.
Oui, elles partiront, mais le calendrier n'est pas précisé. Le Parlement irakien avait voté en début d'année pour le départ des troupes étrangères présentes dans le pays. Les États-Unis ainsi que d'autres pays de la coalition ont déjà commencé à réduire leur contingent de soldats. Les États-Unis, où l'épidémie de nouveau coronavirus a touché 2 millions de personnes, a tué 113 000 Américains. Plusieurs laboratoires du pays travaillent donc d'arrache-pied pour la recherche d'un vaccin. Et cela avance, puisque un des laboratoires a annoncé un essai clinique sur environ 30 000 volontaires à partir du mois prochain. Explication de Grégory Phillips.
Vaccines.
Le 15 mai dernier, dans les jardins de la Maison-Blanche, Donald Trump promet un vaccin, peut-être pour la fin de l'année, dit-il, et lance l'opération Warp Speed, à la vitesse de la lumière, avec 5 laboratoires chargés d'imaginer et de fabriquer ce vaccin le plus rapidement possible. Le laboratoire Moderna, basé à Boston, est l'un d'eux et annonce donc aujourd'hui que très bientôt, il va pouvoir entrer dans la troisième et dernière phase de ses essais cliniques, la plus déterminante, avec des tests sur 30 000 volontaires. Certains recevront le vaccin, d'autres un placebo. Les premiers essais menés sur un groupe beaucoup plus restreint sont qualifiés d'encourageants par l'Agence américaine du médicament. Si ces tests sont concluants et validés par la FDA, alors Moderna affirme pouvoir produire 500 millions de doses de vaccin par an, peut-être jusqu'à 1 milliard.
Et pour lutter contre l'épidémie encore, à ce stade, Singapour investit plutôt dans un nouveau dispositif de traçage. Il s'agit d'un jeton, une avancée technologique controversée qui se veut plus accessible, Gabriel Maréchaux.
Il y a eu le chien robot qui contrôle la distanciation sociale, l'application de traçage téléchargeable depuis mars, mais aujourd'hui Singapour veut aller encore plus loin, assure ce ministre.
Tout le monde n'a pas un smartphone ou un smartphone suffisamment efficace pour fournir toutes les données dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous avons pris la décision d'étendre le programme de traçage collectif en lançant un dispositif que nous appellerons le jeton collectif de traçage.
Rapidement comparé à un bracelet électronique, ce jeton à porter sur soi a d'emblée suscité la méfiance de certains Singapouriens comme Wilson Low.
Je trouve que c'est préoccupant à deux niveaux. D'abord, il y a la question de savoir si ce sera obligatoire pour tout le monde de le porter. Et là, on parle du coup des citoyens singapouriens qui n'ont pas voté de loi l'autorisant. Et si ça n'est pas obligatoire pour tout le monde, on se retrouvera dans une société à plusieurs niveaux, avec d'un côté des gens autorisés à entrer à certains endroits, dans certains bâtiments, et d'autres qui n'auront plus le droit.
À l'origine d'une pétition signée par plus de 40 000 personnes, Wilson Low espère qu'à quelques mois des élections, la gestion du coronavirus développe l'esprit critique des Singapouriens qui n'ont connu qu'un seul parti au pouvoir depuis l'indépendance.
C'était Gabrielle Maréchaux, notre correspondante en Asie du Sud-Est. Revenons en France métropolitaine pour quelques mots de la météo du jour. La vigilance pour pluie, inondation est maintenue en Bretagne et en Auvergne. Ce vendredi, seuls les bords de Méditerranée seront au sec. Ce matin, il fait 15 degrés à Nantes, Bordeaux, 18 à Paris, 21 à Lille et Lyon, 25 degrés déjà ce matin sur la Corse.